franceinter.fr.
Campagne, bonjour. C'est une grande diagonale que nous traçons au départ du Morbihan. Nous étions la semaine dernière pour atteindre les Hautes-Alpes. Code 05, Gap et Briançon, mais surtout des décors qui forcent autant l'admiration l'été que l'hiver. Les Hautes-Alpes abritent en effet des merveilles naturelles, à l'instar du parc régional du Queyras et du parc naturel national des Écrins. Le Champsaur, à cet endroit, est un des rares territoires préservés des bocages d'altitude qui organisent les paysages comme nulle part ailleurs. Bref, c'est magistral. Mais c'est dans ce cadre un peu idéal que nous allons dénicher une des plus vieilles SCOP de France, encore en activité, une société coopérative. Donc, les Joies du Queyras. Nous sommes au pied du col d'Izoard, immortalisé par les nombreux passages du Tour de France. Ici, nous attend Giovanna Graciosi, gérante de la coopérative. Et puis, nous présenterons ce grenier des circuits courts qu'elle déploie. Département qui dispose d'une nouvelle plateforme de distribution des produits agricoles à destination de la restauration collective EP05, EP pour échange paysan, prix du coup de cœur de l'économie sociale et solidaire cette année. Marc Lourdeau, coordinateur de cette plateforme, sera notre second invité.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Giovanna Graciosi, ciao, come stai?
Molto bene, grazie.
Cosa fai in Francia?
Sono la gerente di un negozio di giocattoli, di una fabbrica di giocattoli.
Bon, on va être obligé de traduire, parce que je peux pas aller plus loin, Giovanna.
Ok, ça va.
Vous gérez depuis 3 ans une société coopérative, c'est certainement une des plus anciennes que nous rencontrons dans les carnets. 96 ans, elle est née en 1920. C'est les Joies du Queyras, l'alpin chez lui.
Oui. C'est une entreprise qui est née ici dans la vallée et qui a décidé d'entreprendre les chemins de la SCOP dès les débuts. Parce que c'était une entreprise qui est née avec un pasteur protestant,
oui.
Donc qui ne voulait pas la propriété de l'entreprise, mais qui voulait faire travailler les gens du pays.
Et c'était pour faire travailler les gens du village, bizarrement, l'hiver?
Oui, bizarrement l'hiver, parce qu'il faut penser qu'en 1920, il n'y avait pas les skis comme on les voit maintenant. Il n'y avait pas des remontées mécaniques à l'époque, donc c'était un ski vraiment un peu différent, donc je veux dire comme ça. Et les gens de pays, tout simplement, ils restaient l'hiver enfermés à la maison. Ils avaient un savoir-faire qui c'était celle de travail de bois, donc ils faisaient tous leurs meubles. C'était l'IKEA en version familiale,
oui.
Mais en effet, il n'y avait pas un vrai vente des meubles ou un vrai... C'était vraiment pour l'usage personnel.
Mmh.
Les hommes, ils travaillaient les bois, les femmes, normalement, ils faisaient la peinture et la décoration.
D'accord.
Donc, il a simplement pris ses savoir-faire et décliné sur un objet qu'on pouvait vendre.
Et c'était un bois local?
C'était, et c'est encore là pour les 80% du bois local, oui. C'est du pain accroché pour la plupart des jouets, du pain Saint-Bro. Après, on a dû changer parce qu'on est dans les règles, donc il faut faire, on est avec les jouets, donc il faut suivre des règles très précises. Donc on a changé et faire à mesure l'épaisseur du bois ou les bois pour répondre à des règles normalement européennes pour la production
ouais.
des jouets.
Ouais. Ouais. On regarde les figures représentées par les Joies du Queyras, ce sont des randonneurs, des paysans, on est souvent en costume traditionnel, c'est vraiment... Oui. Une image du monde d'art vieux à l'époque de la création de la coopérative.
Oui, en pensant que les premiers objets en 1920, c'était que les vaches ou les animaux de la ferme. Parce qu'il n'y avait pas des moyens de transmettre l'image en photo ou choses comme ça. Donc les gens, ils regardaient leurs vaches, ils faisaient les dessins de la vache.
Alors après-guerre, il y a évidemment l'exode rural, les jouets en plastique, la fabrique décline.
Oui.
Et elle reprend à partir des années 70, malgré tout.
Oui, ça a remonté pas mal jusqu'à avoir presque 40 personnes qui travaillaient pour nous. Et à cette époque-là, ils ont vraiment fait les majeurs développements de l'entreprise.
Et les Joies du Queyras, c'est combien de salariés aujourd'hui?
Malheureusement, on est ce qui est 3 en ce moment.
3?
3, oui. Et... On sera en production des 300 références, oui.
Et l'avenir pour vous, c'est quoi alors?
C'est difficile, l'avenir, c'est difficile parce qu'on a décidé de continuer avec certaines traditions, c'est-à-dire les bois d'ici, la fabrication 100% made in France. Et je vous avoue que rester ici, c'est hyper difficile. on a fait des licenciements économiques parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, sinon on ne serait pas là à parler. Mmh.
Vous avez deux lieux de vente à Paris, un à Lille, et puis vous avez donc le site internet, malgré les,
des revendeurs, oui.
Malgré les difficultés.
On a des revendeurs, les magasins d'Arvieux. On avait jusqu'à il y a quelques jours un magasin à Lyon, parce qu'on a fait cet expériment aussi. On a ouvert un magasin éphémère à Lyon. Ça nous a plu comme expérience, je pense qu'on va la répéter. Et après, on a les magasins centrales. On a des revendeurs, mais ils n'ont pas tous nos jouets. Justement, on fait tout à la main, la fabrication 100% France. C'est de la qualité, donc on n'a pas beaucoup de revendeurs.
Et Giovanna, mon préféré, c'est le téléphérique.
Oui, c'est le préféré de beaucoup de monde, oui.
Ouais. Pour reprendre vie et se développer, est-ce que vous prévoyez de créer de nouveaux modèles?
Oui, en effet, c'est ce qu'on va faire. Notre but maintenant, c'est aller à Nuremberg, qui est la plus grosse foire des revendeurs des jouets en Europe, et on va présenter toute une nouvelle gamme de jouets. Ça change totalement, ça suit un peu plus les goûts minimalistes de maintenant. On n'abandonne pas la tradition, mais on doit sauver l'entreprise en faisant des choses qui plaisent plus et qui nous plaisent aussi.
Alors, avec la qualité du Made in France, vous prévoyez, ça paraît insensé vu la taille de votre structure, d'attaquer le marché chinois?
Oui, on a eu cette possibilité avec on s'est rencontré avec nos collaborateurs en Made in France au salon des Made in France l'année passée à Paris.
Oui.
Ben, ils nous ont proposé cette vitrine et on a dit bah pourquoi pas, parce que les jouets normalement on importe des Chines, mais pourquoi pas essayer les contraires. Pour le moment ça marche, on a la vitrine. Je sais pas quand on va réaliser la première vente, mais ça sera vraiment la fête quand on fera la première vente.
La SCOP s'appelle depuis 1920 l'Alpin chez lui, sont les jouets du Kera. Il y a un site, c'est lesjouetsdukera.fr. Il y a une page, une page Facebook à suivre, donc le développement de cette coopérative qui renaît avec l'impulsion de Giovanna Graziosi.
J'espère. Merci beaucoup.
Merci Giovanna.
Merci à vous.
Bonne
Merci
journée.
À vous. Bonne journée, au revoir.
Lorsque j'ai pris connaissance du courrier d'Alain suggérant de parler de la maison du berger à Champoléon dans le Champsaur, j'ai pensé à un simple, modeste musée des traditions. Or, cette maison du berger des cultures alpines est tout sauf ça. À l'origine, au début des années 90, un berger écrivain des alpages, Pierre Mellet, décidait de léguer sa maison, très grande au demeurant, à la commune de Champoléon. Le souhait du donateur était d'ouvrir un espace destiné à la sauvegarde du patrimoine de la vallée. Reprise en main un peu plus tard par la communauté de communes, cette maison prend une autre fonction plus précise en centre d'interprétation des cultures pastorales alpines. Son socle est scientifique et culturel, donc pas de présentation d'objets du passé, mais une série d'initiatives et d'actions pour comprendre et expliquer les métiers du pastoralisme tels qu'ils sont vécus aujourd'hui. Pour cela, la maison organise des expositions semi-permanentes dans lesquelles sont injectés des résultats d'enquête, des expositions temporaires, des événements culturels, des actions pédagogiques, la maison édite les études réalisées, et puis elle mène une politique de recherche en partenariat avec les services pastoraux, le monde universitaire et les associations de bergers. D'autre part, cette maison dispose d'un centre de ressources doté de plusieurs fonds bibliographiques. L'ensemble est animé par 4 salariés, ajoutons encore une radio en ligne, un service emploi et des résidences artistiques. Non, je t'ai plus, merci. En tout cas, cette maison du berger est vraiment impressionnante. Jeudi, dans le cadre du festival qui a lieu pendant cette première quinzaine de décembre, Lire les montagnes, la maison organisera une projection lecture avec l'écrivain ethnologue Martin de la Soudière. Le site, c'est très simple, c'est maisonduberger.com. Marc Lourdeau, bonjour.
Bonjour.
Marc, il y a 3 ans, nous avions annoncé l'ouverture de votre plateforme de circuit court à destination des cantines scolaires et par votre intermédiaire d'échanges paysans au pluriel Hautes-Alpes. 3 ans plus tard, votre plateforme continue à s'étoffer, continue à s'étendre. Et aujourd'hui, on va dire, vous, dans les Hautes-Alpes, vous êtes le grenier alimentaire de toute la région PACA.
Plus généralement, les Hautes-Alpes et les Alpes de Provence, le massif alpin, historiquement, notamment pour les filières élevage, les fromages, les yaourts, la viande, était déjà ce grenier. La mondialisation qu'on connaît tous avait coupé ces relations-là. Et peut-être le plus passionnant de ce qu'on vit actuellement, c'est justement de revisiter des circuits que nos grands-parents, non seulement avaient connus, mais pratiquaient. Ils défendaient déjà leurs produits autrefois à Marseille ou à Nice.
Alors, circuit réactivé, redynamisé par les liens numériques.
Oh, le numérique pour nous est vraiment un moyen. Pour nous, le travail d'échange paysan, c'est un travail de médiation, souvent entre justement ces filières agricoles et la restauration collective, notamment les cantines. Souvent, justement, les relations sont coupées. Et sans cette intelligence collective, et notamment sans le travail de notre équipe Échange Paysan, je les salue, en fait, on ne trouverait pas les solutions logistiques, conditionnement, etc., qui permettraient de retisser ces liens.
Alors, vous avez procédé de quelle façon? Vous êtes allé taper à la porte des collectivités?
C'est vraiment de la construction, en plaisantant, je dis en volant, plutôt qu'en marchant, parce qu'on avance plutôt très vite, parce qu'en fait, effectivement, à partir du moment où on avait un début de catalogue, d'ailleurs, c'est clairement la cantine de Briançon qui nous a obligés à prendre la route pour livrer les premières commandes. Et à partir du moment où, du coup, on était sur la route, je m'arrêtais au fil du trajet dans une cantine, dans un gîte, un centre de vacances.
Mmh. Parce que si vous êtes coordinateur d'échanges paysans en Hautes-Alpes, vous faites référence aussi à d'autres producteurs qui sont sur d'autres départements.
Oui, quand on a pu, en début d'année, au travers notamment des menus terroirs dans les lycées de la région, proposer nos produits des Alpes, les yaourts, les fromages, la viande, dans différents lycées de tout l'espace sud, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en fait, on a pensé tout de suite que c'était important de faire alliance avec les quelques maraîchers qui résistent en bord de métropole, et je pense notamment au groupe de producteurs qui sont réunis sur la plateforme paysanne locale d'Aubagne, avec laquelle on est en pleine coopération.
Mmh. Vous livrez quel type de produits?
Du coup, la filière lait est en pleine métamorphose. Ici, elle était totalement dépendante des circuits longs. Et elle est en train de découvrir qu'à cette échelle régionale, elle a un vrai avenir. Il y a aussi des petites épeautres, des lentilles, toutes sortes de produits.
Et il va y avoir un souci à un moment donné, c'est que vous n'allez plus pouvoir répondre aux demandes des collectivités et de la restauration collective.
Disons qu'il y a de la marge, que nos filières, encore une fois, sont en pleine mutation et que cette demande est très stimulante pour eux dans ces évolutions. Et puis, comme on est des montagnards, on discute déjà avec nos amis du Trièves, de l'Isère en général, de la Drôme, et on est prêt à des coopérations avec le Vercors, par exemple.
C'est la survie de la paysannerie en haute montagne?
Aujourd'hui, très clairement, nous, on a l'avantage de voir cette sortie du tunnel, mais eux, ils sont encore, pour la plupart, en très grande difficulté, avec un prix du lait qui est scandaleux. Mmh. Donc, oui, c'est nous, on a paradoxalement une ouverture régionale qui permet à pas mal d'agriculteurs de trouver un avenir.
Ouais. Alors, par exemple, pour un laitier, quelle est la différence entre le secteur traditionnel et celui que vous avez innové avec la plateforme?
Bon, le prix du lait en ce moment sur les circuits longs est autour de 27 centimes. Et la plupart des fromageries, alors qui sont portées soit directement par les agriculteurs, la coopérative du Cara, la coopérative de Lubaille, mais aussi des fromageries privées qui ont ce souci d'une juste rémunération des producteurs, on est plutôt sur une rémunération autour de 40 centimes du litre.
Oui.
Donc on voit bien qu'en plus de ces éléments économiques, c'est beaucoup d'humains aussi qui se jouent derrière. Donc qu'on soit agriculteur ou qu'on soit un cuisinier dans une cantine, si le travail qu'on fait a un sens, a un modèle économique, c'est quand même autre chose que si on est dépendant des circuits longs.
Bien sûr. Et puis, vous le prouvez, parce que la progression annuelle de l'activité, de l'ensemble, dépasse les 50%. Chiffre d'affaires pour cette année 2016, plus de 520 000 euros.
Oui, c'est ça. Je regardais tout à l'heure. Ouais. On est effectivement à 475 000 euros aujourd'hui. Ouais. On démontre entre autres que dans un petit département qui a 140 000 habitants, puisque c'est la première année seulement qu'on a une partie des ventes qui ont été réalisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un petit département brasse déjà des volumes économiques très importants et peut du coup contribuer à l'avenir des agriculteurs.
Oui, et dans les prochaines années, vous visez un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, et c'est bien parti pour, vu la coordination que vous réalisez. Le site, c'est échange au pluriel paysan, pluriel aussi évidemment, .fr. Merci Marc.
Merci beaucoup.
Demain, dans les Hautes-Alpes, un chantier d'insertion, la petite ours à Gap, et puis on vous présentera les carnets de montagne inspirés des carnets de campagne qui font la promotion des initiatives positives dans le Briançonnais. Au mois de janvier, je vous rappelle les destinations, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Eure-et-Loire et l'Indre. Merci pour vos témoignages.